Radio Okapi. Oh, Okapi.
Poursuite à l'Assemblée nationale du débat général sur la loi électorale, un retour timide des députés du FCC s'observe depuis hier mardi. Nouvelle attaque hier des rebelles des ADF dans le village Kosa Kosa près de Komanda en Ituri. Deux personnes sont tuées et 11 autres prises en otage. Dépôt à l'Assemblée nationale de la proposition de loi contre le chômage des jeunes en RDC. Le Congrès international congolais et le collectif des organisations de défense des droits et intérêts des jeunes congolais s'en réjouissent. Et nous en parlerons avec Jean Bédel Ilunga, coordonnateur de l'une de ces deux structures. Bonjour à tous. Poursuite hier mardi à l'Assemblée nationale du débat général sur la loi électorale avec le retour timide des élus FCC. Les élus nationaux ont débattu sur des options majeures à lever, notamment en ce qui concerne la question du seuil, du recours ou pas du vote électronique, mais aussi du mode du scrutin. Cette troisième plénière d'affilée consacrée au débat général sur la proposition de la loi électorale a enregistré le retour encore timide des députés du Front commun pour le Congo FCC qui avait quitté l'hémicycle, exigeant un consensus autour des réformes électorales avant d'entamer le débat général sur la proposition de loi du G13. Michel Kifindangoy.
Les députés du FCC, Adolphe Lumanu, Josué Mufula, Alfani Machozi et Ida Kitoa, pour ne citer que ceux-là, ont marqué de leur présence à la plénière d'hier mardi, à la grande satisfaction de Christophe Mboso, qui les a félicités pour ce geste républicain. Prenant la parole au cours du débat, Josué Mufula a proposé la suppression du seuil électoral et a demandé que soit intégrée dans la loi sous examen la possibilité pour les chefs de l'État de procéder à la mutation des gouverneurs des provinces. Pour la plupart des élus, les candidats gouverneurs et sénateurs doivent être élus par les députés provinciaux et le candidat gouverneur doit être avant tout un député provincial. Un autre groupe a proposé que l'âge des candidats sénateurs soit fixé à au moins 45 ans ou traîner une longue expérience. Le député national Memas Matuku a de son côté proposé l'institutionnalisation de la sanction, notamment pour le président de la CENI et ceux qui interviennent dans la certification des résultats des élections. Après 90 intervenants depuis le début du débat, le G13 a sollicité 72 heures pour rencontrer toutes les préoccupations soulevées.
En Ituri, 2 morts et 11 personnes ont été prises en otage. C'est le bilan encore provisoire d'une nouvelle incursion hier mardi des rebelles des ADF dans le village Kosa Kosa, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Komanda, au sud du territoire d'Irumu. Des sources sécuritaires dans la zone rapportent que parmi les victimes figure le chef de ce village. Cette situation a créé un mouvement massif des populations dont la plupart ont passé nuit dans la brousse. La société civile locale encourage l'armée à poursuivre l'ennemi afin de retrouver ses otages. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Selon plusieurs sources locales, ces rebelles cherchent à tout prix à se réorganiser après avoir été chassés par l'armée et la MONUSCO la semaine dernière du site du mont Oyo à plus ou moins 13 km de Komanda Centre. Dans leur fuite mardi vers le village Kosa Kosa, ils ont assiégé vers 20h locales plusieurs habitations dont la maison du chef du village Kosa Kosa où ils ont commis plusieurs exactions. La société civile locale renseigne que le corps des deux personnes tuées à la machette et abandonnées sur place ont été découverts après le passage de ces rebelles. Dans leur fuite, ils ont pris en otage 11 personnes, dont le chef de cette entité et toute sa famille, ainsi que des passagers à bord d'un véhicule en panne qui transportait des braises. Contacté, l'administrateur du territoire d'Irumu, le colonel Siro Simba, indique qu'aussitôt alerté, l'armée est allée à leur poursuite. Pour rappel, c'est depuis 3 jours que plusieurs localités telles que Bamande, Bavonkutu, Takumanza, ainsi que Kandoi sont la cible d'attaque de ces ADF. Bounia, Ezekiel Mouzali, Lia Radio Okapi.
Au Nord Kivu, 6 civils ont été tués et une dizaine de maisons incendiées dans une triple attaque attribuée aussi aux rebelles ADF dans 2 localités du secteur de Rwenzori dans le territoire de Beni. Il s'agit des localités Masambo et Kilia, respectivement, dans le groupement de Basongora et Malambo. Selon la nouvelle société civile congolaise du secteur de Rwenzori, il s'agit là d'un bilan provisoire. André Kitenge pour les détails.
La dernière attaque a eu lieu mardi vers 16h à Ululu-Miyende, une entité du secteur des Rwenzori sur la route Beni-Kassindi. Ici, 4 personnes, dont 2 femmes, ont été tuées lors d'une embuscade contre 2 véhicules en provenance de Kassindi. Selon la nouvelle société civile congolaise du secteur des Rwenzori, les assaillants ont d'abord pillé les marchandises avant de mettre le feu à ces véhicules. Peu avant, vers 11h, c'est le village de Mouloa, dans la localité de Kilia, en groupement Malambo, qui a été attaqué, causant la mort de 2 civils et des dégâts matériels importants, notamment 4 motos incendiées. Plus tôt dans la matinée, c'est la localité de Masambo qui a été la cible de ces assaillants qui ont incendié au moins 12 maisons de commerce à Kitohobu-Umira, un village de la localité Rugeti. Selon notre source, cette situation a causé le déplacement des habitants vers des milieux plus sécurisés. L'armée, qui confirmait elle-même ces attaques, souligne à travers le porte-parole de Sokola 1 que les 2 forces conjointes FARDC-UPDF ont engagé des poursuites contre ces assaillants. Aucun bilan n'est disponible, a précisé le capitaine Anthony Mwalouchai. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Au moins 4 camions de vivres et non-vivres, c'est l'assistance du gouvernement congolais acheminée à Rutshuru Centre hier mardi en faveur des déplacés de Djomba qui ont fui les affrontements entre le M23 et les FARDC depuis fin mars dernier. C'est à la suite d'une promesse du Premier ministre Samalou Kondé lors de son dernier séjour à Goma début avril. Le député national Rémi Séguiobé, membre de la délégation gouvernementale, note en revanche que les besoins de ces sinistrés sont énormes. Il déplore par ailleurs la reprise des combats depuis ce matin dans la zone. Sifamagourou pour les détails.
Environ 14 000 ménages ont été identifiés dans au moins 8 sites situés dans divers milieux de réfuges, sans parler de ceux qui sont réfugiés en Ouganda. Cette assistance d'urgence ne pourra pas durer plusieurs jours, car les besoins sont énormes, a déclaré cet élu de Rutshuru, Rémi Séguiobé.
Ils ont besoin de vivre. Par exemple, il n'y a pas de tente pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui dorment à même le sol et à ciel ouvert, faut de matelas. Les soins médicaux, il y a beaucoup de blessés, il y a des malades, l'eau propre.
Pour ce qui est des ménages réfugiés en Ouganda, plus nombreux que ceux qui sont restés dans le Rutshuru, cet élu affirme qu'eux aussi vivent dans de mauvaises conditions, certains dans les camps et d'autres éparpillés en Ouganda, notamment dans les districts de Kisoro. Il plaide auprès du gouvernement pour qu'une mission soit envoyée en Ouganda pour voir et assister ces Congolais.
J'ai rencontré ceux qui étaient dans un camp, Nyakabande, c'était à Kisoro. Nous avons saisi cette occasion et en disant, si vous allez déjà en Pologne, un peu plus loin, passer aussi aux réfugiés qui sont en Ouganda.
Rémi Séguiobé appelle le gouvernement à rétablir la paix impérativement, que ce soit par la voie militaire, politique ou diplomatique, afin de permettre le retour de la population dans leur milieu, seul vœu de celle-ci. Goma, Sifamagourou, Radio Okapi.
Au sud Kivu, toutes les maisons construites sur des sites impropres seront démolies et dans les 30 jours. Décision de Théo Ngwabidje Kassi, gouverneur de province, après son passage sur les lieux où s'est produit l'éboulement de terre mortelle lundi soir à Bukavu. L'autorité provinciale s'est dit déterminée dans cette démarche pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. Théo Ngwabidje Kassi précise aussi que les recherches sont terminées. Le bilan définitif est de 8 morts et 8 personnes blessées. Il est joint au téléphone par Cynthia Bachizi.
Nous avons terminé les recherches hier, donc nous avons ce bilan qu'on a communiqué depuis hier de 8 personnes décédées et 8 personnes blessées. On a pris les dispositions pour que nous donnons les moyens en ce qui concerne le frais funéraire, mais aussi prendre en charge ceux qui sont blessés. Nous ne pouvons pas continuer habituellement à regarder ces catastrophes et surtout le perte en vie humaine, alors que nous avons déjà listé ces sites. Ils sont une quinzaine dans la ville de Bukavu et dans la province. On a donné 30 jours que le maire, le bourgmestre, va me lister toutes les personnes qui habitent ces sites impropres. Et puis, je vais revenir effectivement pour détruire ces maisons. D'ici aussi l'occasion de sensibiliser la population, de comprendre que quand nous avons déjà listé un site qui est impropre à la construction, que le fait que les gens encore s'entêtent et continuent à y rester, ça expose les vies humaines. Nous ne pouvons pas continuer à assister à cette situation. Donc, nous sommes effectivement décidés à détruire tous ces sites impropres à la construction. Et évidemment, le défi reste maintenant de trouver l'endroit pour relocaliser les personnes. En attendant, nous pouvons voir aussi d'autres mécanismes, comment faire partir les gens et les faire loger ailleurs. Voilà, c'est ça le défi.
À Kananga, les enseignants des écoles primaires publiques réclament 3 mois de salaire, les frais de fonctionnement de leurs établissements et la prime de la gratuité. Ils ont organisé une marche ce mercredi dans la ville pour demander l'implication des autorités dans cette affaire. Dans leur mémorandum déposé au bureau de l'Assemblée provinciale, ils indiquent que, selon les informations en leur possession, leur argent de février, mars et avril serait bloqué à Kinshasa pour des raisons qu'ils ne maîtrisent pas. Selon eux, les actions vont se multiplier s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Un extrait de leur mémo adressé au chef de l'État dans cet extrait choisi par François Kadima.
Nous ne connaissons pas trop comment la chaîne des dépenses publiques est gérée dans notre pays, mais nous savons néanmoins que vous êtes un homme providentiel, car dès votre avènement aux commandes de ces beaux et grands pays, l'enseignant est en train de retrouver petit à petit sa juste valeur. Nous réclamons nos salaires, les frais de fonctionnement des écoles et la prime de la gratuité des 3 mois, février, mars et avril 2022 en cours, pour lesquels l'argent est sans trace jusqu'à ces jours. Interrogé, le gérant de la banque TMB accuse votre gouvernement de n'avoir pas décaissé les fonds inhérents à la paye de ses enseignants. De son côté, le chargé de suivi de la paye des enseignants en province, le directeur provincial du CECOP, Kassai Central 1, déclare que l'argent destiné à la paye des enseignants serait bloqué à Kinshasa pour une raison non encore connue, et c'est au sabotage de la gratuité de l'enseignement de base, alors que monsieur l'ordonnateur délégué général avait déjà réorienté nos salaires vers Equity BCDC depuis le 18 mars dernier.
Le vice-président de l'Assemblée provinciale du Kassai central, qui a reçu leur mémo, a promis de le remettre à qui de droit et a promis de s'impliquer pour que leur situation soit décantée. Et puis, les enseignants de la sous-division de l'EPST et Koutou 1 dans la province du Maïndombe ont manifesté lundi et hier mardi pour réclamer auprès de la Caritas Congo le paiement de leur salaire de 2 mois qu'ils n'ont pas encore reçu. Il s'agit du mois de mars et d'avril 2022. Selon Giscard Moukela, président de l'intersyndicale, ceci n'est pas la première fois que ces enseignants, plus de 1000, manifestent à cause des retards récurrents de paiement par la Caritas. Il exige que le paiement de ces 2 mois d'ici le 1er, il exige le paiement de ces 2 mois d'ici le 1er mai. Dans les cas contraires, les enseignants se verront dans le droit d'arrêter les cours. Ils demandent aussi aux autorités compétentes de pouvoir leur changer de banque. Joint à ces sujets, l'abbé Emmanuel Ndoïté, responsable de la Caritas au Maïndombe, indique que jusque-là, sa structure n'a pas encore reçu de l'État congolais l'argent destiné à la paye des enseignants. Dès que l'argent sera là, ces derniers seront payés, a-t-il conclu. Au Maniema, remise officielle hier mardi à Kindu de l'arrêté provincial portant création d'une concession forestière de communauté locale. Il s'agit de la concession forestière de Maïko. Cette concession d'une superficie totale de près de 50 000 hectares regroupant 7 groupements de 2 secteurs, dont les secteurs de Bitoulé et celui de Obokoté dans les territoires de Lubutu au nord de la province du Maniema. La cérémonie de remise de cet arrêté a été présidée par le ministre provincial de l'Environnement en présence des responsables de l'administration forestière et élus du peuple du territoire de Lubutu. Florence Kizalunga pour des précisions.
La création de cette nouvelle concession forestière de communauté locale est un ouf de soulagement pour la communauté qui promet déjà d'en faire une bonne gestion. Aboussala Crispin.
Nous promettons aux autorités provinciales que nous allons œuvrer dans le respect des réglementations en matière de CFCL pour l'honneur de notre province du Maniema.
Le député provincial de Lubutu pense que cette concession va booster le développement de cette entité. Guyane Massili.
Vous savez que chez moi, il y a un parc national de la Maïko. Alors cette concession nous est accordée à la lisière de ce parc. C'est une grande satisfaction parce que la population n'avait plus le droit d'accéder au parc. Puisque maintenant la population a eu le droit à travers cet arrêté de jouir d'une partie de ce parc à travers cette concession communauté, c'est une bonne affaire. Avec l'avènement du parc national, les activités de la population étaient bloquées. Ceci permet maintenant à la population de jouir de cette partie en toute responsabilité.
Signalons que l'obtention de cet arrêté a été rendue possible grâce à l'appui financier de l'ONG Faune et Flore International. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
En sport, l'ancien sélectionneur des Léopards de la RDC, Florent Ibengue Ikwenge, a connu un accident de circulation lundi soir après les entraînements avec son équipe de RS Berkane au Maroc, au lendemain de sa qualification pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération. Les différents examens médicaux menés sur lui ont révélé des fractures stables des deux vertèbres lombaires sans gravité. Le coach Florent Ibengue a voulu, par ce message exclusif à Radio Okapi, rassurer les Congolais et les auditeurs de Radio Okapi qu'on le reverra bientôt reprendre ses activités.
Je vous appelle pour vous remercier de tous les témoignages que vous avez pu m'envoyer et puis pour vous tranquilliser aussi, pour vous dire que ça va bien mieux. Bah, vous l'avez vu, j'ai eu un accident de circulation, donc maintenant ça va mieux. J'ai été bien pris en charge, que ce soit par les passants, les pompiers et puis le service médical à l'hôpital. Ils ont vraiment été merveilleux, tous ces gens. Et voilà, je m'en tire avec peu de dégâts, des dégâts légers qui vont pas demander une grand travail pour la consolidation. Donc vous me verrez très bientôt en tout cas. Je vous remercie encore une fois, soyez bénis. Et voilà, que dire de plus à part d'aimer la vie quoi. Donc voilà, et de la préserver. À très bientôt. Je vous embrasse. Merci.
Notez que la formation de RS Berkane du Maroc croisera les Congolais du tout puissant Mazembe en demi-finale de la Coupe de la CAF, match aller le 8 mai à Lubumbashi et match retour une semaine après à Berkane.
Actualité internationale.
La junte militaire au pouvoir à Bamako a accusé hier mardi l'armée française d'espionnage et de subversion après la diffusion par l'état-major français des vidéos tournées par un drone à proximité d'une base du centre du Mali récemment restituée par la France. Les autorités ont constaté depuis le début de l'année plus de 50 cas délibérés des violations de l'espace aérien malien par des aéronefs étrangers, notamment opérés par les forces françaises, annonce un communiqué du gouvernement de Bamako.
L'invité.
Les organisations des jeunes de la RDC, le Congrès international congolais et le collectif des organisations des défenses de droits et intérêts des jeunes congolais se réjouissent du dépôt à l'Assemblée nationale de la proposition de loi contre le chômage des jeunes en RDC. Mais pour inciter l'Assemblée nationale à examiner et adopter rapidement cette loi qui pourra permettre à un plus grand nombre des jeunes congolais d'accéder aux emplois plus facilement, ces deux organisations des jeunes ont elles aussi adressé un mémorandum au président de l'Assemblée nationale pour l'encourager dans ses sens de la célérité. Plus de détails sur ces sujets avec le président du collectif des organisations des défenses des droits et intérêts des jeunes congolais, Jean-Bédel Ilunga, s'entretient avec Dona Madimba.
Jean-Bédel Ilunga, bonjour.
Bonjour messieurs les journalistes.
Que les jeunes congolais réclament la réduction, voire l'élimination du chômage des jeunes est sans aucun doute sans débat. Mais pourquoi estimez-vous qu'en 2022, à un an des élections générales en République démocratique du Congo, l'adoption d'une loi contre le chômage des jeunes est une urgence, puisque vous le dites dans le mémorandum que vous venez de déposer à l'Assemblée nationale?
Merci bien. Cela est une urgence. Pourquoi? Parce que si vous regardez actuellement le niveau de la souffrance qui connaissent le jeune, en tout cas cela pousse certains à comprendre que non, nous n'avons pas de place dans ces pays.
Pouvez-vous nous donner deux ou trois exemples de la souffrance dont vous faites allusion ici?
Oui, bon, l'exemple le plus récent, c'est la montée des prix des carburants dans les pompes.
Mais cela n'affecte pas que les jeunes, ça affecte toute la population.
Mais la plus grande catégorie qui est affectée par cette augmentation des prix, c'est la catégorie jeune. Les jeunes.
Comment et pourquoi?
Qui sont dans le secteur des transports, par exemple, en souffrent, notamment les motards, c'est là qui sont dans les taxis bis, et aussi les transports réguliers qui assurent au moins le déplacement des personnes de leurs biens dans toutes les contrées de notre pays. La plupart, ce sont des jeunes. Alors, c'est cette catégorie-là qui est beaucoup plus affectée. Or, c'est dans cette catégorie qu'on retrouve au moins un grand nombre de jeunes.
Alors, il y a tout un débat autour de la jeunesse, des jeunes.
Oui.
Quand vous évoquez les jeunes et quand vous parlez du chômage des jeunes, c'est quelle catégorie de personnes à qui vous faites allusion?
Voilà pourquoi même la quintessence de cette proposition de loi qui est proposée par l'honorable Justin, la proposition de loi dans son article 2e au point 7, détermine la tranche d'âge durant laquelle on peut être appelé jeune par rapport à d'autres lois qu'on
a. Vous faites allusion à l'honorable Justin Mastaki.
Mastaki, oui. Alors, ces points-là stipulent que non, est jeune toute personne âgée de 18 à 45 ans. Ce qui n'était pas le cas dans notre pays jadis, parce que lorsqu'il s'agissait des intérêts des jeunes, et les vieux se considéraient toujours comme jeunes. Et finalement, ce sont eux qui s'accaparaient de toutes les dividendes qui étaient pourvus aux jeunes.
Mais la détermination de l'âge final à 45 ans, à mon avis, hein, vous me contredirez si je ne dis pas la vérité, ne semble pas avoir résolu le problème, non ? Puisque de nombreuses autorités de la RDC, qui ont dirigé d'ailleurs ce pays, étaient dans cette catégorie. On peut citer le président Mobutu, le président Kabila, on peut citer des animateurs du Parlement comme Olivier Kamitatou, Thomas Louaka, étaient tous dans cette catégorie qu'on venait de définir. Mais pourquoi leur présence et leur action et leur mandat n'ont pas révolutionné ou mis fin à ce problème du chômage des jeunes ?
Tout simplement parce qu'il n'y avait pas une loi. Il n'y avait pas un soubassement juridique pouvant les contraindre à accepter d'appliquer ce qui revient du droit aux jeunes.
Pouvez-vous nous donner les quelques contraintes que la loi va mettre en action pour pouvoir favoriser la fin du chômage des jeunes?
Voilà, la loi prévoit premièrement, on met fin à toute conditionnalité liée à l'employabilité des jeunes. C'est notamment les fameuses expériences professionnelles que les jeunes doivent brandir ça et là avant tout emploi. En tout cas, la loi est stricte là-dessus. Donc, aucun jeune ne doit être contraint à exhiber une expérience professionnelle, même de 0 mois, pour être recruté quelque part. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est que la loi prévoit un fonds qui sera alloué à tout projet entrepreneurial de jeunes.
Jean Bédel, il y a donc tout un grand espoir pour les jeunes à voir cette loi être adoptée. Et espérons justement que ça le soit le plus rapidement possible. Mais comme il y a toujours des mains de la vie, Jean Bédel Ilunga, si jamais, malgré l'existence de la proposition de loi et malgré votre mémorandum pour mettre la pression, aucune loi n'est finalement adoptée dans ce sens. Qu'est-ce que votre organisation et les organisations de défense des droits des jeunes, qu'allez-vous faire?
Alors, nous demandons tout simplement à nos autorités, à nos députés, de pouvoir adopter cette proposition de loi lorsqu'elle sera alignée. Au bureau de l'Assemblée nationale, de tout faire pour aligner cette proposition de loi, qui, du reste, demeure la meilleure proposition de loi sociale qui ait existé jusque-là dans notre pays. En tout cas, ça, c'est pour le compte des jeunes. Au cas où on n'arrivera pas à le faire, les jeunes vont faire ce que les autres font. Peut-être des sit-ins, nous allons faire des manifestations citoyennes des jeunes. On doit continuer à faire des plaidoyers, à maintenir la pression sur les autorités pour que cette proposition de loi soit alignée à l'ordre du jour.
Président du collectif des organisations de défense des droits et intérêts des jeunes Congolais, Jean Bédel Ilunga, je vous remercie.
Je vous en prie, merci les journalistes.
Fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.